Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être encore fidèles à Métropolez-vous. Ça commence à se savoir, ce qu'on appelle la culture scientifique, technique et industrielle, la CSTI, est un des grands axes du projet culturel métropolitain. Nous connaissons tous deux des lieux principaux qui lui sont dédiés depuis plusieurs décennies dans la métropole, le Muséum d'Histoire Naturelle et la Cité de l'Espace. Il y a quelques années, deux autres équipements ont été créés et les ont rejoints, le Quai des Savoirs à Toulouse et Aéroscopia à Blagnac. Un cinquième pilier de la CSTI a vu le jour récemment à Montaudran. Il s'appelle la Piste des Géants et il regroupe plusieurs structures. Les Jardins de la Ligne, la Halle de la Machine, à laquelle nous avions consacré une émission il y a quelques semaines avant son inauguration, et l'Envol des Pionniers qui ouvre ses portes ce samedi 22 décembre, un lieu qui retrace l'histoire de l'aéropostale et rend hommage à la mémoire de ses pionniers. Vous l'aurez compris, nous allons donc entièrement dédier ce numéro de Métropolez-vous à l'ouverture de l'Envol des Pionniers à Montaudran. Et pour découvrir ce nouveau lieu à la gloire de l'aéropostale et de ses pionniers, nous recevons aujourd'hui celui qui dirige depuis 2011 un autre fleuron de la culture scientifique, technique et industrielle dans la métropole toulousaine, Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace. Bienvenue à vous aussi, monsieur le directeur. Si je vous invite, c'est qu'il devrait y avoir, a priori, des liens étroits entre la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers. Quels vont être ces liens et quel rôle va être le vôtre dans ce nouveau lieu ?
Eh bien, la Cité de l'Espace a une délégation de service public avec la collectivité, avec la métropole. Ça veut dire qu'elle a un contrat avec Toulouse Métropole et ce contrat a été renouvelé l'an dernier pour les 12 prochaines années. Et dans ce contrat, la collectivité avait mis un deuxième gros bébé qui s'appelle l'Envol des Pionniers. Et donc, la société qu'on appelle la CMSL, c'est son nom, qui exploite donc la Cité de l'Espace aujourd'hui, a maintenant dans son exploitation, pour les 12 années qui viennent, la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers. Et ça nous a été confié d'abord par appel d'offres, hein, c'est une mise en concurrence, et ça nous a surtout été confié par nos savoir-faire, les réussites, on va dire, de la Cité de l'Espace, son développement, son rayonnement, son attractivité pour le territoire, et puis sa capacité à mettre en tourisme culturel, puisque c'est bien ça dont il s'agit pour nous, alors, à rendre accessible des contenus qui ne sont pas forcément faciles, quand on parle du spatial, qui sont aussi passionnants en même temps, et qui, pour l'Envol des Pionniers, vont nous, mais on va en parler à suivre, nous permettre de raconter cette histoire extraordinaire qui s'est déroulée à Toulouse.
Oui, et puis évidemment, il y a une proximité, en tout cas une continuité plutôt historique. Les pionniers, l'aéronautique à Montaudran, et puis on arrive à l'espace quelques 50, 60 ans plus tard.
Tout à fait, absolument. C'est une des raisons pour lesquelles ce nom de pionnier a été retenu. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être trop vite pour vous, mais on a parlé de l'Envol des Pionniers, c'est qu'il a fallu choisir ce nom, le discuter avec la métropole. L'envol, d'un côté, c'est dynamique, un envol, et puis pionnier, parce que à la fois, c'était des pionniers à l'époque, la Cité de l'Espace, il y a des pionniers majeurs, des gens, on pense tous bien sûr à des gens comme Yuri Gagarin par exemple, hein, ou des femmes comme Valentina Tereshkova, ensuite les Neil Armstrong dont on va fêter l'an prochain le premier pas de l'homme sur la Lune avec Buzz Aldrin.
Les 50 ans.
Les 50 ans, exactement, remarquable, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis Toulouse reste une ville de pionniers dans plein de domaines. On est sur cette piste, au bout de la piste, c'est le B612. Avec le pôle mondial de compétitivité sur aéronautique, espace, système embarqué, Aerospace Valley, l'Institut de recherche et technologie Antoine de Saint-Exupéry. De l'autre côté de la rocade, il y a le CNES, Sonera, etc. C'est une ville de pionniers. L'Oncopole, évidemment, aussi dans d'autres domaines.
Merci de nous avoir donné ces premières informations très importantes. Vous nous en direz plus tout à l'heure sur ce que l'Envol des Pionniers va proposer à ses futurs visiteurs. Dans les médias, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'informations métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. Pour commencer ce flash du nouveau sur le front des énergies renouvelables dans la métropole, une nouvelle étape a été franchie pour la centrale photovoltaïque de l'Oncopole.
Oui, Eric, le 13 avril 2017, le conseil de la métropole a acté la mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque sur la grande prairie de l'Oncopole, au sud de Toulouse, en bord de Garonne. Le permis de construire a été délivré par la préfecture de la Haute-Garonne en mai dernier. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie avec le vote du conseil de la métropole de sa mise en œuvre sous la forme forme d'un bail conclu entre Toulouse Métropole et la SAS Centrale Solaire de l'Oncopole pour une durée de 30 ans, moyennant une redevance annuelle progressive, 30 000 euros pour les 10 premières années, 35 000 euros pendant les 5 années suivantes, puis 50 000 euros sur ce même intervalle de 5 ans, puis 85 000 euros et 100 000 euros pendant les 5 dernières années. Cette centrale produira environ 21 millions de kilowatts par an, ce qui représente l'équivalent de la consommation électrique de 3 000 habitants. Elle fait partie des 103 lauréats désignés qui ont proposé le prix le plus bas constaté en France pour des centrales solaires. Ce projet soutient la démarche engagée par Toulouse Métropole en matière de transition énergétique et en faveur du développement durable.
Comme on le sait, les manifestations qui ont eu lieu dans le centre de Toulouse ont eu quelques répercussions sur l'activité commerciale de nombreuses enseignes. La mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et Tisséo prennent des mesures afin d'aider le commerce et l'artisanat pour les fêtes de fin d'année.
Oui, à la suite des événements récents, ces trois institutions s'associent pour soutenir le commerce et l'artisanat. 3 heures de stationnement gratuit, sous réserve de ne pas dépasser cette durée, ont été accordées pour les samedis et dimanches d'avant-fête, et ce, dans les 16 parkings du centre-ville de Toulouse, ce qui représenterait potentiellement jusqu'à 400 000 euros de recettes en moins. Pour sa part, Tisséo met à la disposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse 12 000 titres de voyage, dits de compensation, par week-end, afin que les commerçants puissent en faire bénéficier leurs clients, soit 24 000 titres de transport valables pour un déplacement unique chacun. Le coût de cette mesure est estimé à 40 000 euros, pris en charge par Tisséo Voyageurs, dans le cadre et le respect du contrat de service public avec Tisséo Collectivité. Autre mesure, l'exonération des droits de place des commerçants et artisans du marché de Noël de la place du Capitole, ce qui représente environ 30 000 euros de recettes en moins. Des mesures qui visent à attirer de nouveau les passants en centre-ville suite aux différentes manifestations qui ont bloqué l'économie.
Nous allons finir ce flash la tête un peu dans les étoiles. Il y a quelques jours, la Cité de l'Espace et la société Sichuan Startime Network Telecom ont signé un accord de coopération stratégique.
Oui, la Cité de l'Espace est en relation depuis plusieurs mois avec la société Sichuan Startime Network Communication qui porte un projet de zone de développement économique dédié au spatial à proximité de Shenzhou, province du Sichuan. Sichuan Startime Network Telecom souhaite intégrer à ce projet un équipement éducatif basé sur le modèle de la Cité de l'Espace et l'a donc sollicité pour l'accompagner. La signature d'un accord cadre de coopération stratégique le 11 décembre durant les 6e assises de la coopération décentralisée franco-chinoise qui se sont tenues à Toulouse officialise la volonté des deux établissements de collaborer dans la réalisation de ce projet et constitue une étape dans la structuration de leur relation.
Alors, Jean-François Desbois, il est de coutume de demander à l'invité de Métropolez-vous de réagir aux informations du flash de Corinne Saint-Félix. Je vais donc vous inviter à nous donner quelques précisions concernant la signature de cet accord de coopération avec la société chinoise Sichuan Startime Network Telecom. Je suppose que c'est un partenariat d'envergure et même de grande envergure pour la Cité de l'Espace.
Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut peut-être déjà dire pour les auditeurs, c'est que la Cité de l'Espace, c'est l'équipement le plus important en Europe pour partager avec le public, les avancées de la science, dans le domaine du spatial, de l'astronomie, la connaissance de l'univers, les missions spatiales, les enjeux de tout ça, y compris pour la vie de tous les jours, la météo, les télécommunications, l'agriculteur, vous voyez, toutes ces conséquences très directes dans la vie de tous les jours, la géolocalisation. Évidemment, GPS, Galileo, etc. Donc la Cité de l'Espace, elle est repérée déjà sur ce plan-là. Par ailleurs, nous avons des actions internationales importantes, des expositions. Nous avons eu une exposition pendant 3 mois au Kazakhstan cette année, l'an dernier en Colombie, il y a 2 ans en Corée, parfois d'ailleurs avec le Muséum de Toulouse. Hein, on est en partenariat, c'est la force de Toulouse aussi de partir ensemble sur ce genre de choses. Moi, je préside, et d'ailleurs j'ai initié ce comité de travail, un groupe au sein de la Fédération Astronautique Internationale. Je préside donc le comité international des musées centres de culture scientifique dédiés au spatial. Donc on est vraiment repéré, si vous voulez, là-dessus, et nos savoir-faire sont repérés et sont visibles à l'international. Il faut vraiment qu'on en ait conscience sur ce plan-là. Donc on a eu des actions proactives, si vous voulez, hein, pour se faire connaître, et nous avons effectivement un opérateur de satellite qui va monter un gros complexe près de Chengdu, votre collègue l'a rappelé, un grand complexe en fait donc d'opérations de satellites, avec donc des radars, des centres de recherche, enseignement, etc., et qui veut donc avoir un établissement proche, on va dire, de la Cité de l'Espace dans ce contenu au niveau éducatif, donc on l'accompagne. Et on a un deuxième projet, en l'occurrence à Nankin, de la même manière. Donc ce sont deux gros projets majeurs. Alors on est dans la phase amont pour le moment, de coopération stratégique. L'idée maintenant, c'est de basculer vers de la coopération vraiment d'ingénierie, y compris financière, donc qui va intéresser évidemment la métropole.
Eh bien, merci pour ces nouveaux compléments d'information, Jean-François Desbois. Nous allons maintenant poursuivre notre échange à la découverte de ce nouveau lieu dédié à l'histoire de l'aérospatiale. Ce numéro étant consacré, je le rappelle, à l'ouverture de l'envol des pionniers à Montaudran.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Jean-Baptiste Desbois, et non pas Jean-François, comme je l'ai dit par erreur, le directeur de la Cité de l'Espace. Si vous le voulez bien, nous allons faire un peu d'histoire pour commencer, parce que si l'envol des pionniers est situé à Montaudran, ce n'est pas par hasard. Ça va nous amener à resituer dans le temps ce projet muséographique dédié à la mémoire de l'aéropostale. Comment et où est née l'aéropostale? Et peut-être encore plus, qui sont ces fameux pionniers, ces grandes figures de cette aventure?
Alors, l'aéropostale, il faut se replonger dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, Pierre-Georges Latécoère, entrepreneur du Sud-Ouest, installé à Bagnères de Bigorre, construisait au départ des wagons, et puis, pendant la guerre, développe une activité d'avionneur, en fait, de fabrication d'avions, le Samson 2A2, qui a été l'avion de la guerre, l'avion un peu mythique de la Première Guerre mondiale. Donc, il s'installe à Toulouse, arrive la fin de la guerre, donc il commence à anticiper. C'est un entrepreneur né, Pierre-Georges Latécoère. Il avait dans l'idée, il le présente au ministre des transports, je crois d'ailleurs, à ce moment-là, en septembre 1918, donc quelques mois ou quelques semaines avant la fin de la guerre, propose un projet de ligne aéropostale, enfin de ligne de transport de courrier par voie aérienne pour aller vers ce qu'on appelait encore les colonies. On était encore dans l'Afrique du Nord, l'AOF, l'Afrique occidentale française. Voilà, donc il imagine ça pour gagner en fait du temps. On est toujours dans cette question-là finalement, de façon à rallier Rabat, Casablanca, le Sénégal, donc Dakar, non plus en une semaine, 10 jours, mais en une à deux, trois journées maximum. Et il avait donc d'un côté, lui, des commandes d'avions qui étaient en cours au moment où l'armistice est arrivé. Par ailleurs, il connaissait des pilotes et il savait que les pilotes, eux, avaient qu'une envie de repartir en vol. Mais il a, entre guillemets, marié les avions d'un côté, les pilotes de l'autre et son projet de ligne. Et il a lancé cette ligne fin 2018, précisément le 25 décembre 2018, 1918 bien évidemment, et on va en faire bientôt le centenaire. Donc, il fait un premier vol test vers Barcelone.
Voilà, donc il atterrit à Barcelone, et puis après il y aura l'Afrique du Nord,
tout à fait.
Puis le Sénégal, et puis plus tard encore l'Amérique du Sud, Mermoz, Saint-Exupéry, voilà les grands noms dont je parlais tout à l'heure.
Oui, et n'oublions pas,
il y en a d'autres.
Exactement, il y a aussi les mécaniciens, c'était fondamental, les mécaniciens partaient avec eux dans les avions. Vous aviez aussi les entoileuses, donc les femmes qui ont été très actives durant la Première Guerre mondiale, et qui entoilaient donc les avions. Vous aviez après les radios. Enfin, c'est tout un peuple, ça a été plus de 1000 personnes à une époque dans l'entreprise Latécoère.
Déjà une très très grosse entreprise, oui. On en arrive à ce que va proposer ce lieu aux visiteurs. Qu'est-ce qu'on va y trouver? J'imagine que ça raconte l'histoire des pionniers, l'histoire du site lui-même, puis de l'aéropostale. Est-ce que j'oublie des choses? Il y a encore d'autres choses qu'on va découvrir?
Alors,
en visitant
peut-être rappeler un dernier petit point historique pour bien avoir les choses en tête. Ça a commencé par Pierre-Georges Latécoère, 1918, premier vol le 25 décembre. Il cède son entreprise en 1927. Il la cède à un certain Marcel Bouilleux-Lafont, qui à ce moment-là conserve la ligne, la poursuit, l'amplifie, et appelle cela l'aéropostale. Et en 1931, l'aéropostale fait faillite, et deux ans après, est intégré dans ce qui est devenu Air France. Donc c'est une histoire qui a conduit à la création d'Air France, et puis par ailleurs, à un avionneur qui a montré le chemin à un avionneur qu'on connaît bien à Toulouse, s'appelle Airbus. Donc c'est vraiment une histoire fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? Ce que l'on souhaite montrer, c'est un lieu où on va raconter cette histoire. Et raconter cette histoire en mettant en perspective avec le Toulouse qui s'est construit sur ces bases-là. Le Toulouse qui est devenu aéronautique et spatiale, capitale mondiale de l'aéronautique, capitale au moins européenne du spatial, si ce n'est mondial également du spatial. Et le Toulouse qui se construit demain. On veut vraiment se situer dans ce cas de mise en perspective.
C'est pour ça que je parlais de continuité.
Oui.
C'est-à-dire qu'à la fois le passé, le présent et puis l'avenir.
Absolument.
Alors, le visiteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des expositions, il va être immergé dans la vie quotidienne des pionniers, des mécaniciens.
On va le faire vivre, effectivement, on va le faire vivre. Alors, il y a une première partie de la zone où, en fait, en gros, on explique Montaudran. à l'époque, hein, c'est-à-dire à la fois Montaudran dans la phase 1918-1933 en gros, jusqu'à la reprise par Air France, et Air France va rester jusqu'en 2003 sur le site. Hein, donc on raconte l'évolution du site de Montaudran. Et puis, une deuxième partie où on va avoir trois grandes formes d'illustration de cette aventure humaine. Hein, c'est ça dont on va parler, d'aventure humaine. C'est une des différences avec Aéroscopia, donc elle est extrêmement complémentaire sur ce plan-là. D'un côté, une illustration de la ligne dans ses phases historiques, et avec une série de panneaux astucieusement faits, qui de 1917 ou 1918 à 1933 racontent l'histoire de la ligne. Ensuite, on va voir les trois grands éléments naturels qu'ont dû affronter les pilotes, les radios, les avions, etc., les mécanos. D'un côté, le sable, le désert, franchir le désert, et donc ça va être illustré par Antoine de Saint-Exupéry, et donc sa vie à Cap Juby, qu'on appelle maintenant Tarfaya. Deuxième grand pôle d'éléments naturels qui a été franchi, l'océan. Là, on illustre avec Mermoz, hein, en tant que tel, qui a traversé l'océan, qui est mort, en l'occurrence, hein, sur un AT-300. Et puis, dernier élément, troisième grand élément, la montagne. Alors, bien sûr, les Andes avec Guillaumet, mais il ne faut pas oublier que les montagnes, elles commençaient dans les Pyrénées.
Et oui, il fallait déjà passer les Pyrénées.
Il fallait passer pour les Pyrénées. Oui. Ça paraît simple aujourd'hui.
Oui.
À l'époque, c'était quasiment impossible. On les contournait par Perpignan, hein, le long de la côte. C'était extrêmement compliqué. Et puis ensuite, on a réussi à les franchir, puis franchir les Andes. Et donc, il y a le fameux accident de Guillaumet qui se crache dans les Andes à l'époque. Voilà. Et puis, dernier élément après, hein, la ligne, ces trois pôles, six éléments qui expliquent comment on le faisait tout cela. On le faisait parce qu'il fallait voler, il fallait recruter, il fallait former, il fallait entretenir, etc. Donc on a tout cet assemblage-là que le public peut découvrir de manière libre. Et ensuite, on va l'incarner. Mais là, je réserve la surprise au public.
Oui, alors, on trouvera quoi ? Il va y avoir des témoignages, je suppose. Il va y avoir des objets.
Oui.
J'ai entendu parler de copies d'avions aussi.
Oui,
tout à fait. De simulateurs de vol.
Oui, alors, on va voir. Il est arrivé, simplement, il lui manquera les ailes encore. C'est un biplan. Reconstitution d'un 702A2 qui est magnifique. Merci aux ailes anciennes, hein, qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Enfin, sur ce programme-là. Il leur manquait quelques semaines pour finir, donc on aura les ailes en janvier. Mais déjà, on a le fuselage, il est absolument magnifique. Et on comprend de quoi on parle quand on voit un objet comme celui-ci, grandeur nature. On va avoir ce qu'on appelle dans nos jargons des manips, c'est-à-dire des choses à faire, un peu comme la Cité de l'espace, on joue avec des choses.
Donc c'est interactif,
on teste des choses,
en tout
très
cas
interactif.
Par certains aspects.
Absolument, c'est une visite très familiale, très sympa, où grands et petits, on se retrouve ensemble autour d'un...
Oui, il y a un côté ludique.
Absolument. Par exemple, il y a un endroit, on fait manipuler un manche à air, un peu de l'époque, si vous voulez, pour comprendre la sensibilité. Le manche à balai. Vous avez raison. Pour comprendre la sensibilité d'un avion à l'époque. C'était très risqué.
Ça devait être brutal, quoi. Je pense que ça se faisait pas de façon progressive comme aujourd'hui.
On n'avait pas tout compris de l'aéronautique, encore, de ces phénomènes. On a beaucoup de vidéos aussi. Nous avons des objets historiques, hein, une paire de gants d'Antoine de Saint-Exupéry, des paires de lunettes, etc. Même si on n'est pas amusé, on l'illustre à travers des objets de ce type-là. On montre aussi comment une voilure était entoilée, par exemple, hein. Voilà, on explique tout ça.
Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait quatre grandes thématiques de lieu. Vous en avez déjà un peu parlé. Hein. Les 100 ans d'histoire de Montaudran, premier site de construction aéronautique à Toulouse. L'histoire de la ligne de l'aéropostale. L'histoire des hommes et des avions sur la ligne. Bon, ça, c'est un peu tout ce que vous venez de nous décrire. Et puis, la quatrième, le courrier, le défi des territoires. Un peu moins explicite. Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Alors, le courrier, il faut savoir que, concernant le courrier, la doctrine, si je peux dire ça comme ça, le mantra, on pourrait dire, hein, un petit peu de Diderot, c'était « le courrier doit passer ». Et donc, par rapport au territoire, il faut comprendre que la ligne, aujourd'hui on dit, bah oui, la ligne, elle partait de Toulouse, elle allait au Sénégal, elle traversait l'océan, elle allait ensuite en Amérique latine, ah, bah, ça paraît très simple. Ça s'est évidemment fait par étapes. Par étapes successives. Hein, d'abord Barcelone, puis ensuite Malaga,
de plus en plus loin,
et on descend, etc. Et donc ça veut dire qu'il y avait des négociations politiques avec les autorités.
Oui, comme aujourd'hui pour survoler l'espace aérien d'un territoire,
par exemple, absolument, tout à fait. Il y a eu des problèmes techniques, il a fallu créer des escales, il a fallu créer des escales et des petits aérodromes, des aéroplaces, on appelait ça à l'époque. Il a fallu parfois négocier des rançons lorsque les pilotes tombaient dans le Rio del Oro. Voilà, c'est toute cette série-là qui est donc racontée. C'est une aventure, mais dingue, d'une certaine manière. Mais c'était un risque raisonné. Il faut bien le comprendre comme ça aussi. Ce n'était pas des casse-coups qui partaient n'importe comment, cette aventure.
Comment ça se présente, les bâtiments ? Parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui constituent l'envol des pionniers. Il y en a trois. Quels sont ces bâtiments ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ?
Alors, vous avez raison de préciser, c'est un bâtiment historique. Il faut d'abord rappeler cela, c'est-à-dire qu'on est vraiment là où s'est écrite l'histoire, c'est-à-dire là où Guillaumet, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Didier Dora, Pierre-Georges Atécoère, etc., ont travaillé. C'est-à-dire qu'ils sont allés là, pas forcément toute leur vie, parce qu'après ils sont partis dans différentes aéroplaces et autres.
Oui, je crois qu'on peut parler de patrimoine industriel.
Ah mais absolument, c'est ça, un vrai patrimoine industriel. Et là, le travail remarquable de la métropole avec l'architecte a été de réhabiliter cet espace, à la fois d'en faire un lieu contemporain, ne serait-ce qu'au niveau des normes, au niveau de, ah oui, de l'accueil du public, on a toutes ces contraintes-là.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et en même temps, de totalement le réhabiliter pour en conserver l'âme industrielle. Et là, on a un lieu qui résonne dans cette forme industrielle, dans ses contenus et dans l'incarnation. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je laisserai le public découvrir cette forme-là. Et puis, on a le château en tant que tel.
Oui, hein, château Petit Espinet.
Petit Espinet Rénal, absolument, oui. Qui était une grande ferme, je crois, autrefois. Et puis que Pierre-Georges Atécoère a acheté pour s'installer. Qui, lui, va être réhabilité au fur et à mesure. Puisque on va créer à l'intérieur de ce château, on va reconstituer le bureau de Didier Dora, le chef d'exploitation. Le courrier doit passer. Voilà, c'était un des hommes clés de cette aventure-là. Donc, ce sera pour le printemps 2019. Et puis, on va aussi ouvrir un restaurant, mais ce sera pour la fin de l'année 2019, début 2020, dans ces eaux-là. Puis la cour est très belle aussi, et dans la cour, on va trouver une statue de Pierre-Georges Atécoère, commandée par la métropole en l'occurrence. Très belle statue réalisée par Madeleine Desnas du Moncel. On va trouver, ou le public va trouver maintenant, une statue d'Aristide Maillol, magnifique, qui était à Toulouse à un moment au Jardin Royal et qui n'y était plus depuis quelque temps, qui est remise en scène. Et puis après, les plaques d'Air France, etc., un certain nombre de choses pour valoriser le lieu.
Alors la visite pour les personnes qui vont aller visiter, est-ce qu'il y a un parcours, entre guillemets, obligatoire, ou est-ce qu'on peut aller où on veut, on est assez libre de se déplacer à l'intérieur du bâtiment?
Oui, imaginez, c'est un peu comme la Cité de l'Espace, plus petit hein, dans les proportions, mais on est bien sur une visite libre. Je crois qu'aujourd'hui, le public souhaite avoir une visite libre, se promener, les enfants qui vont d'un côté, les parents de l'autre éventuellement, un qui va s'intéresser plutôt à telle manip, un autre qui va plutôt être intéressé par l'histoire du lieu, un autre qui va vouloir aller dans le hangar avion. La visite est libre, et je crois que c'est important.
Véritable autonomie donc pour le visiteur, oui. Selon
bien sûr, nous aurons aussi des visites guidées, notamment, elles vont être lancées à partir du printemps, des visites extérieures du site, à partir de la rentrée, pardon. Elles vont être lancées, des visites, parce que vous avez parlé tout à l'heure en introduction des jardins de la ligne. On va avoir un wagon postal aussi, hein, qui va être implanté au cours du deuxième trimestre 2019. Un vrai wagon postal qui est en train d'être réhabilité, dans lequel le public pourra rentrer. Pourquoi on parle de wagon alors qu'on est en train de parler d'avion depuis une demi-heure? C'est qu'en fait, le courrier arrivé de Paris à Toulouse par avion, par wagon, était trié donc dans ce wagon et ensuite partait par avion donc depuis Toulouse. Voilà. Donc un certain nombre de choses qui vont aussi, au fur et à mesure, hein, créer de la nouveauté, alimenter un petit peu le renouvellement de l'intérêt pour le public.
Alors, au-delà de la simple visite, qui déjà en elle-même évidemment vaut la peine, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues dans ce lieu? Est-ce qu'il y aura des conférences? Est-ce qu'il y aura des projections, je sais pas, de vidéos, de documentaires, des interventions de spécialistes, d'experts, des expositions évidemment permanente, mais peut-être aussi des expositions temporaires à thème. Est-ce qu'il y aura tout ça?
Eh bien, il y aura tout ça, absolument. Vous l'avez très bien décrit pour être directeur de la Cité de l'Espace.
Non, et vous avez un peu. C'est gentil.
Non, mais effectivement, on a une très belle salle de conférence hein, de 200 places, dans ce qui commence à bien compter, avec un équipement audiovisuel très, très intéressant. Donc, nous aurons des conférences de nos partenaires comme la 3AF, par exemple, l'Association Astronautique Aéronautique de France, Académie d'Art et d'Espace, des Ailes Anciennes, de l'Association des Amis de l'envol des pionniers qui est en train de se constituer, ou d'autres en l'occurrence, du quartier ou d'autres associations donc en tant que telles. Nous allons avoir un cycle d'expositions temporaires qui démarre là avec des affiches de films liés à l'aviation, à l'aéropostale et autres, et puis des affiches Air France, et puis l'affiche de publicité aéropostale, Atécoère et autres. Mais surtout, on va démarrer vraiment la première exposition temporaire à partir d'octobre, l'an prochain, pour des cycles annuels, octobre-août, en tant que tel. Donc ça aussi sera extrêmement intéressant de voir ça. Et puis il y a deux points de pas oublier, une activité auprès des scolaires. Hein, et là, je remercie le rectorat qui, en l'occurrence, nous soutient avec un chargé de mission auprès de nous pour travailler les programmes, nos activités, pour être bien en lien là-dessus, avec des ateliers où on va créer des ateliers. On a appelé ça déconnecter, c'est-à-dire qu'on déconnecte les jeunes, on leur dit les portables, les machins, les trucs, vous mettez ça de côté, on a perdu un sac de courrier, on va le retrouver à l'ancienne. Et on se replonge un petit peu dans cette aventure-là, et puis on crée une belle aventure avec les jeunes, et puis des activités avec les entreprises aussi. Hein, au sens large, organise l'entreprise pour tenir des séminaires, des réunions, des anniversaires, tout ce qu'on peut imaginer, des dîners-débats à la Cité,
voilà, c'est un,
à l'Envol des Pionniers.
Un lieu dédié à l'histoire, à la mémoire, mais c'est aussi un lieu vivant.
Ah, c'est un lieu qui sera très vivant et j'espère que le public pourra bien le vivre et nous le fera vivre, c'est-à-dire que ce sera aussi une interaction entre le public et nous.
Alors, en parlant d'interaction, est-ce qu'il est prévu des tarifs spéciaux, une espèce de ticket global, par exemple, avec l'Envol des Pionniers plus la halle de la machine, ou aussi un ticket global, Envol des Pionniers, Aéroscopia, Cité de l'espace, pour boucler la boucle, si je puis dire, le passé, le présent et l'avenir?
Oui, tout à fait. C'est un petit peu long pour le décrire, mais effectivement, on travaille sur ces dimensions-là. On a un ticket avec la halle de la machine, un ticket avec la Cité de l'espace. On est en train de finaliser un ticket avec Aéroscopia. La question étant, comment on emboîte un parcours aéronautique et spatial avec un parcours de culture scientifique à Toulouse et un parcours tourisme qui est beaucoup plus large après, qui inclut le patrimoine culturel, les musées d'art, etc. de Toulouse.
Et donc on est en train de travailler avec l'Office de tourisme, forcément.
Avec l'agence d'attractivité, comme on l'appelle aujourd'hui, oui. Et la direction de la culture scientifique, technique, industrielle de Toulouse Métropole.
Combien de visiteurs vous attendez chaque année?
Autour de 60 000. Là, on verra ce qu'en dit le public. On va bien sûr observer, comme on dit, les réactions du public pour améliorer ce qui devrait être amélioré, fluidifier ce qui devrait être fluidifié. Mais on pense être assez réaliste en étant sur une base de ce type-là pour une visite qui est de l'ordre, on pense, d'une heure et demie à peu près.
Alors, je voulais terminer sur une note, j'allais dire people, c'est pas tout à fait ça. Parce que l'Envol des Pionniers a une marraine et un parrain.
Oui.
Et quand je dis people, ce sont des gens très connus, en tout cas, par ceux qui s'intéressent à l'aéronautique et à la performance aéronautique, qui sont ce parrain et cette marraine.
Voilà. Alors, le terme people peut être pris de manière un peu péjorative, un peu olé olé. Là, cela, on est sur
des figures, des
personnalités
qui
donnent du sens.
Vous avez raison.
Voilà, mais qui donnent du sens, en tout cas, à ce projet également et qui ont tout de suite dit oui. Il n'a même pas eu l'ombre d'une hésitation de leur part lorsqu'elles ont été sollicitées par la métropole et par nous-mêmes. C'est Dorine Bourneton pour la marraine. Dorine Bourneton, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui a connu un très grave accident d'avion à l'âge de 16 ans, qui est donc paraplégique, qui est en fauteuil roulant maintenant, et qui a dit « je remonterai dans un avion », elle est remontée dans un avion, elle a dit « je pilote un avion », elle pilote un avion, « je ferai de la voltige », elle est maintenant une
championne de voltige.
Championne de voltige, enfin, c'est tout à fait remarquable. Et elle vient tout récemment de se battre, entre guillemets, vis-à-vis des organismes pour devenir instructrice de brevet de pilote. Voilà. Donc, c'est une femme remarquable. Donc, c'est très intéressant dans le cas de, on parlait de pionnier, de volonté, de solidarité, d'état d'esprit. Et puis, en même temps, cet accès à tous d'un équipement comme celui-ci. Et donc, à l'aviation. Et puis, l'autre, c'est Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, Solar Impulse. J'allais dire presque qu'on ne le présente plus, mais présentons-le quand même un petit peu. Bon, c'est un homme tout à fait remarquable, qui a une vision de la vie, on va dire, avec aussi son travail sur les 1000 projets. Ce sont deux parrains qui donnent beaucoup de sens au projet de l'Envol des Pionniers et donc à ce travail que l'on mène à Toulouse Métropole et à l'Envol des Pionniers.
Il est l'heure de terminer ce numéro, malheureusement, et de vous remercier d'y avoir participé, Jean-Baptiste Desbois. Je pense que nous aurons réussi, grâce à vous, à présenter à nos auditeurs ce qu'est l'Envol des Pionniers, en tout cas j'espère, ce qu'ils vont y découvrir en visitant ce nouveau lieu et quelles sont ses connexions avec Aéroscopia et la Cité de l'Espace. Le site de la Piste des Géants à Montaudran est désormais complet avec l'ouverture de l'Envol des Pionniers ce samedi 22 décembre, à quelques jours du centenaire du premier vol de Pierre-Georges Latécoère entre Toulouse-Montaudran et Barcelone, c'était le 25 décembre 1918. L'Envol des Pionniers sera ouvert de 10h à 18h du mercredi au dimanche dans un premier temps jusqu'à fin janvier, puis du mardi au dimanche à partir de février 2019. Pour vous renseigner et en savoir plus, je vous invite à consulter le site web www.l'envol-des-pionniers.com. Il y a aussi une présentation générale de l'ensemble du projet La Piste des Géants sur le site web de Toulouse Métropole. Vous pouvez le consulter sur www.toulouse-métropole.fr. En vous référant à la catégorie projet, puis à la rubrique Toulouse Aérospace. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.